BFM Business, vos placements, nos conseils, BFM Bourse, avec Guillaume Sommerer.
Les marchés à ciel ouvert, oui, c'est le cœur des marchés qui s'ouvre à vous en grand chaque jour. Au cœur de BFM Bourse, on vous accompagne jusqu'à 18h. Au cœur de ces marchés très intéressants à suivre, et notre CAC 40 qui peine, qui recule, qui sous-performe à nouveau un petit peu les autres marchés européens aujourd'hui, à maintenant. Trois jours des législatives, elles pèsent ces législatives, et on regardera un indicateur de volatilité sur le marché français. C'est Romain Daubry qui nous le fera découvrir et qui nous dira d'ailleurs que cet indice de volatilité est en train à nouveau de se tendre aujourd'hui par rapport à la volatilité globale des marchés européens. Romain Daubry donc qui va nous en parler. On regardera aussi certaines valeurs, notamment H&M qui souffre beaucoup, la météo qui plombe les performances du printemps d'H&M. Le mois de juin pourrait même voir une baisse des ventes d'H&M. On en parlera avec nos experts. Et puis Saint-Gobain qui lui va se développer davantage en Inde, au Moyen-Orient, en Asie grâce à une acquisition. Saint-Gobain parmi les grandes valeurs à suivre. Mais d'abord, il est 9h30 à New York, c'est l'ouverture des marchés américains. Oui, BFM Bourse, c'est le plus beau rooftop de France. D'ici, on a vu sur les marchés en Europe, mais aussi à l'ouest, sur les États-Unis. On va passer 10 minutes le regard posé sur New York, où les indices sont en train d'ouvrir. John Plassard, depuis les bureaux de Mirabeau. Bonjour, John. Ravi de vous retrouver. Étienne Braque, depuis la tour Euronext. Bonjour, Étienne. Comment Wall Street se réveille-t-il?
Bonjour à tous. Après une petite hausse hier soir à la clôture, vous avez Wall Street qui ouvre en ordre dispersé avec un indice Dow Jones qui perd 0,16% quand le Nasdaq est stable, malgré le fait que vous avez Micron qui perd 5%, Nvidia qui perd un peu plus d'1%, mais figurez-vous que Amazon qui a pris plus de 4% hier reprend du terrain, toujours au-delà des 2000 milliards de dollars, avec des informations de The Information qui évoquent que le site pourrait lancer un site low cost pour concurrencer AliExpress ou encore Temu. Le S&P 500 est parfaitement stable, hein, toujours à la porte de ses records, à 5477 points. À noter que l'obligataire se stabilise aux États-Unis, 4,3% pour le 10 ans américain, quand le 2 ans de son côté perd 2 points de base à 4,72. Et puis sur le front des devises, l'euro-dollar retrouve la barre des 1,07 à 1,0724. Du côté des sociétés, à souligner Walgreens, vous savez, c'est une chaîne de pharmacie qui perd 15% aujourd'hui à l'ouverture, après un gros warning, hein, consommateur américain qui manque à l'appel. Le groupe revoit à la baisse ses perspectives. Consommateur qui manque également à l'appel du côté de Levi's, qui perd un peu plus de 10%. H&M, vous en avez parlé, perd également plus de 10%. Donc, visiblement, les premiers résultats sont pas très bons du côté de Wall Street. Enfin, un dernier mot, notamment sur le pétrole qui repart à la hausse, comme depuis le début de la semaine, au-delà des 82 dollars pour le WTI, quand le Brent, de son côté, s'échange à 85 dollars. Et donc, Wall Street, qui ouvre sur une hausse timide, avec un indice Nasdaq qui gagne 0,1%. Le Dow Jones est stable, idem pour l'indice S&P 500.
Et on parlera aussi dans un instant, bien sûr, de ce dont les Américains parlent le plus aujourd'hui, ce grand débat, premier débat télévisé entre Joe Biden et Donald Trump. Auparavant, alors John, effectivement, l'ouverture à Wall Street et les indicateurs intéressants, la croissance américaine du troisième trimestre vient d'être révisée.
Oui, du premier trimestre, Guillaume, effectivement, oui. C'est la dernière révision. Pourquoi ? Parce que on rentre évidemment dans le troisième trimestre. La semaine prochaine, tenez-vous bien, on était lors de la dernière révision, la deuxième à 1,3, on remonte à 1,4%. Donc c'est pas grand-chose, mais ça continue d'indiquer que la croissance américaine est la plus faible depuis la contraction du premier trimestre 2022. Ce qui est intéressant de noter, puis on va en parler après, eh bien on voit que la consommation personnelle passe de 2% à 1,5%. Donc c'est en train de décélérer au niveau de la consommation américaine. Et si on regarde, on avait aussi d'autres statistiques aujourd'hui, les commandes de biens durables hors aviation et défense, eh bien passent de plus 0,3% à moins 0,6%. Donc ça nous montre une certaine décélération de la croissance. Et puis juste un mot, Guillaume, parce que c'est toujours assez intéressant de regarder les demandes d'allocation au chômage. Eh bien, elles ont baissé de 6 000 pour atteindre 230 000, donc on n'est pas très loin des plus hauts niveaux de 10 mois qui étaient de 243 000. Par contre, on a aussi entendu que les demandes récurrentes ont augmenté pour atteindre 1,84 million aux États-Unis. Ça ne vous dit pas grand-chose, mais c'est le niveau le plus élevé depuis la fin de l'année 2021, les demandes récurrentes d'emploi. Donc on voit ici qu'on a une dégradation de l'économie et de l'autre côté, eh bien une dégradation de l'emploi aux États-Unis.
Effectivement, alors on est toujours sur un soft landing, hein, voilà. Mais quand même, la direction s'affirme de plus en plus. Et c'est dans ce contexte, qu'Étienne, qu'on a eu des informations sur la solidité du secteur bancaire américain.
Les fameuses stress tests qui ont été publiés aux États-Unis, John Plassard, typiquement, ça fait bouger certaines valeurs. Goldman Sachs, c'est l'une des plus fortes baisses du Dow Jones, moins 1,7%.
Oui, c'est très important. Il faut se rappeler que les stress tests, c'est publié une fois par année par la Réserve fédérale américaine. Et puis, c'est des tests qui sont utilisés pour calculer le montant minimum de capital qui sert à absorber les pertes lorsque on a un problème. Et ce problème, c'est quoi? Ben, pour passer à travers ces tests, eh bien, la Réserve fédérale américaine calcule un niveau de chômage de 10% en cours d'une grave récession, une baisse de 40% des prix de l'immobilier commercial et puis une chute de 36% des prix de l'immobilier résidentiel. Donc on voit ici que pour passer à travers ces stress tests, eh bien, il faut avoir assez de capitaux. On avait 31 banques qui étaient sur le grill. Eh bien, tenez-vous bien, Étienne, les 31 ont passé le test. Mais, selon les calculs de la Fed, si on était dans le scénario catastrophe, eh bien, vous auriez des banques comme JP Morgan, Goldman Sachs et Bank of America qui subiraient des pertes de 685 milliards de dollars tout en restant dans ces stress tests. Et puis, juste pour rebondir sur le fait que Goldman Sachs baisse aujourd'hui, eh bien, on voit que certainement, c'est les premières conclusions qu'on a des analystes, eh bien, Goldman Sachs et Bank of America devraient voir leur exigence de fonds propres, augmenter, donc potentiellement, eh bien, il y aurait un risque sur le dividende et aussi sur les rachats d'actions. C'est pour ça que certains de ces titres sont en baisse aujourd'hui.
Ce qui n'empêche pas les indices de progresser. Le S&P gagne 0,1%. Le Nasdaq aux États-Unis gagne 0,3%. Le Nasdaq sur lequel il faut suivre notamment le géant des puces Micron. On va parler de ses résultats et de la réaction du marché dans un instant. Mais d'abord, on est à 131 jours de la présidentielle. Ah oui, parce qu'on parle beaucoup de politique ici en France, vous le savez John, on a nos législatives, ici on est à J-3. Mais aux États-Unis, 131 jours nous séparent de la présidentielle. Ce soir, gros coup d'accélérateur avec ce premier débat télévisé entre Joe Biden et Donald Trump. Que faudra-t-il surveiller?
Alors, on l'avait dit, ce soir, c'est les pop-corn qui seront à l'honneur et la bière sans alcool aux États-Unis. Mais évidemment, il ne faut pas s'attendre ce soir à avoir de plus grandes précisions concernant les programmes économiques de Biden et Trump. Alors, selon ce que disent les journaux ce matin, les deux hommes vont surtout se focaliser sur certains sujets, dont la sécurité des frontières, et notamment la frontière avec le Mexique, l'immigration, bien évidemment, le droit à l'avortement. Vous savez que c'est un sujet dont on parle énormément aux États-Unis. Évidemment, la condamnation de Donald Trump à New York, mais aussi, bien évidemment, si on rentre sur ce sujet, la condamnation, il n'y a pas très longtemps de ça, de Hunter Biden, le fils de Joe Biden, qui avait été condamné pour l'achat et possession d'armes à feu. Et évidemment, ce que regardent et ce que regarderont tous les téléspectateurs américains, c'est bien évidemment de voir comment ces deux hommes proches de 80 ans, voire plus de 80 ans pour Joe Biden, vont se comporter s'ils ne vont pas bafouiller. C'est ce qu'on appelle le body language qu'il va falloir suivre. Et on en avait parlé en début de semaine, selon les prévisions, et c'est difficile à dire évidemment, avant que le débat ait lieu, eh bien, c'est normalement dans le premier débat, celui qui rentre dans la course, c'est-à-dire Donald Trump, qui pourrait gagner des points.
Effectivement. Alors Joe Biden, il y a des interrogations sur son âge, effectivement. Donald Trump, qui est très âgé lui aussi, il y a des interrogations sur certaines incohérences, en l'occurrence, puisque lui aussi a des petits moments de confusion. En effet, Donald Trump, on l'a vu dans ce début de campagne, ce soir, débat télévisé, ce sera 2h30 heure française, et d'ailleurs à suivre aussi sur BFM TV en direct et traduit en français, ce débat télévisé aux États-Unis entre Joe Biden et Donald Trump. Du côté des valeurs à Wall Street, il y en a une qu'il faut surtout pas rater aujourd'hui, Étienne, le titre Micron.
Micron, qui est l'une des fusées de l'intelligence artificielle à Wall Street, John Plassard, le titre a plus que doublé en l'espace d'un an, plus 50% depuis le début de l'année. Bon, aujourd'hui, ça cale un petit peu, moins 5%, après des perspectives qui laissent Wall Street un petit peu sur le doute.
Exactement. Mais si vous regardez, Étienne, les résultats qui ont été publiés, qui sont en l'occurrence sur deux trimestres décalés pour le troisième trimestre, eh bien, ils sortent largement au-dessus des prévisions grâce à la demande dans les puces liées à l'intelligence artificielle, bien évidemment. Mais Micron a anticipé, a annoncé anticiper un chiffre d'affaires pour le trimestre en cours entre 7,4 et 7,6 milliards de dollars, alors que le consensus était logé à 8. Donc c'est largement en dessous. Et tenez-vous bien, c'est pas du tout à cause de l'intelligence artificielle, c'est parce que, eh bien, Micron est toujours avec la vieille technologie, si on peut dire comme ça. C'est les marchés traditionnels tels que les ordinateurs personnels et les smartphones qui sont des, évidemment des secteurs qui ont une moindre croissance que tout ce qui est lié à l'intelligence artificielle.
Alors pour ceux qui nous suivent à la radio, c'est avec BFM Business, BFM Bourse, c'est aussi à la télévision. On ne le voit pas, mais on sait que vous portez un jean aujourd'hui, John. Oh, on sait tout de vous. On vous voit, on voit vos vidéos, celles que vous postez le matin. On sait que vous portez un jean. Et ça tombe bien. Il faut suivre aujourd'hui le titre Levi's à Wall Street. Ce titre Levi's est en baisse de 17% malgré des résultats supérieurs aux attentes. Comment expliquez-vous ce plongeon de Levi's en bourse ?
Ben écoutez, c'est alors d'abord, je ne porte pas le jeans maintenant, mais plus tard, oui. Alors oui, ça c'est clair. Mais c'est intéressant de noter qu'on a un bénéfice qui est supérieur aux attentes, et de l'autre côté, on a des revenus qui ratent le consensus. Et pourtant, on a aussi Levi-Strauss qui nous annonce une hausse, une augmentation de 8% de son dividende. Mais les analystes craignent, tout comme pour Walgreens, tout comme pour General Mills et d'autres entreprises, que le consommateur américain, eh bien, achète moins de jeans parce que le cycle de remplacement, et oui, Guillaume, il y a un cycle de remplacement aussi pour les jeans, eh bien, s'allonge. Donc les gens, à cause d'une croissance qui décélère, achètent moins de jeans. Et ce qui est aussi assez intéressant de noter, c'est que les ventes par Internet de Levi-Strauss sont en hausse de 19% en glissement annuel. Donc c'est une bonne chose, mais les magasins de briques et de mortiers, eh bien, manquent de clients.
Effectivement, et Levi's perd donc 17%. Alors, vous n'êtes pas en jean, mais vous ne le savez peut-être pas, John, mais Étienne est en Bermuda. Hein, depuis la tour Euronext, il fait chaud, c'est vrai. Et oui, il y a du soleil sur Paris, je ne sais pas quel temps il fait à Genève. Et Étienne, une autre valeur très intéressante à suivre pour mesurer le comportement des consommateurs, vous l'avez repéré, ce titre, c'est Walgreens.
Walgreens, qui est un couteau qui continue de tomber. Figurez-vous que le titre a perdu 70% de sa valeur en l'espace de deux ans. C'est une chaîne de pharmacie, John Plassard, qui perd encore 20% aujourd'hui, avec décidément des ventes qui continuent de plonger.
Oui, tout à fait. C'est assez dramatique ce qui se passe chez General Mills. En plus, ils ont annoncé qu'ils allaient fermer plusieurs magasins. Ils en ont 8600 aux États-Unis. Et tenez-vous bien, et vous le releviez avant, Étienne, eh bien, on a le PDG de Walgreens qui pensait, et c'est lui qui l'a dit sur CNBC, qu'il pensait qu'au second semestre, le consommateur serait plus fort, mais ce n'est pas le cas. Donc on voit qu'il y a une désertion d'une certaine manière des magasins, et ça relève les messages qu'on a de General Mills, je le disais avant, mais aussi de McDonald's et de Burger King. Je vous rappelle, et on en avait discuté il y a quelques semaines, que les deux chaînes de fast-food, et je sais, Guillaume, que vous adorez le McDonald's, font des menus aux États-Unis de 5 dollars, tenez-vous bien, depuis le début du mois de juin.
Quel bonheur. Merci John. John Plassard avec nous depuis les bureaux de Mirabeau. Étienne Braque nous accompagne depuis la tour Euronext, et le CAC 40 qui, alors que Wall Street est en hausse, qui recule toujours. Notre CAC 40 de 0,4%. On a un écart de taux là, 3 jours de législative qui s'amplifie un peu, pas énormément, hein. On va pas faire de cinéma, mais quand même, léger écartement des taux entre le 10 ans français et le 10 ans allemand. On est à 74 points là, d'écart de taux. Puis il y a un indice de volatilité sur le CAC 40 que Romain Daubry de Bourse Direct nous calcule. Il a la gentillesse de nous le calculer et qui s'accroît. Voilà, on est... volatilité spécifique au marché français qui est en train, cette volatilité, d'augmenter plus vite que la volatilité des autres marchés européens aujourd'hui, à 3 jours de ces législatives. On va bien sûr mesurer ça. On appellera Romain Daubry depuis Bourse Direct tout à l'heure. Mais d'abord, 15h44, c'est la Bourse Cash. Olivier Deroyer aujourd'hui nous accompagne. Bonjour Olivier.
Bonjour Guillaume.
Vous êtes gérant action pour Montpensier Finance. Vous venez rendre justice. Votre verdict est-il clair ?
Il est clair.
Pour vous, et je découvre votre verdict en même temps que nos auditeurs, pour vous, malgré les doutes depuis la dissolution, il y a déjà des opportunités sur le marché français. Ce point de vue, vous l'assumez ?
Oui, je l'assume.
Oh. Olivier, alors que le CAC 40 continue de faire moins bien que la plupart des autres marchés européens, et encore aujourd'hui, vous dites, malgré les doutes et les législatives qui approchent, eh bien le marché français offre des opportunités. Lesquelles ? Pourquoi ?
Alors bon, effectivement, le marché français depuis la dissolution, il a sous-performé le Stoxx 600 à peu près de 3,5%, même peut-être 4% là, à l'instant où on se parle, avec des spreads souverains qui se sont tendus hein, par rapport à l'Allemagne, l'écart de taux une trentaine de BP, donc tout ça est assez cohérent. Donc aujourd'hui, le propos est certainement pas de dire qu'il faut acheter tout le marché français, parce que là c'est un vrai pari politique. Le problème est de se dire, est-ce qu'il n'y a pas au sein de ce marché français un certain nombre de valeurs qui ont des caractéristiques finalement d'exposition relativement faibles au risque France et qui pourtant ont quand même déjà été sensiblement pénalisées et quelque part offrent un couple rendement risque asymétrique et qui dans la plupart des scénarios, finalement, devraient être capables de rebondir à moyen terme et qui, donc, sont des opportunités intéressantes. Alors, c'est vrai que si on prend le risque politique, on ne va pas faire tous les scénarios, mais il nous semble quand même qu'il y a, en gros, deux scénarios qui pourraient faire baisser les marchés davantage que ce qu'ils ont baissé jusque-là. Probablement une majorité RN seule, absolue.
Qui commence à arriver, hein, cette probabilité. Il y a un sondage qui l'a dit possible. Voilà, tout
oui,
premier sondage.
Enfin, globalement, si on fait la moyenne des sondages, c'est quand même toujours probablement le meilleur prédicteur. C'est quand même un scénario qui est quand même pas le plus probable. L'autre, ce serait effectivement une majorité, je dirais, avec une composante d'extrême gauche assez forte, sans doute quand même la nécessité d'un peu de renaissance. Ça, ce serait les deux scénarios qui pourraient faire baisser les marchés davantage, mais qui nous semblent pas aujourd'hui majoritaires, même si évidemment ils sont possibles. Donc ensuite, quand on se concentre sur les risques pour les entreprises, quels sont les risques? Évidemment, il y a l'exposition France. Si vous avez une crise économique, notamment provoquée par les tensions sur les taux et une crise financière, ça c'est le premier risque. Bon, il y a le nombre de salariés aussi en France, notamment dans le cadre du programme d'extrême gauche avec des hausses de 15% du SMIC. Ça peut impacter les entreprises qui ont beaucoup de salariés à bas salaire en France. Il y a des sujets potentiellement sur l'impôt sur les sociétés. Mais enfin, il y a quand même des conventions fiscales internationales. On peut pas non plus faire n'importe quoi. Et puis après, évidemment, il y a tout ce qui dépend des taux avec les banques qui sont sensibles aux écarts de taux et puis tout ce qui est dans la sphère immobilière. Donc ça, c'est les grands risques. Donc ça nous donne un premier panier de valeurs sur lequel aujourd'hui, on va quand même rester prudent. Ça, c'est finalement bah, tout ce qui est financière, immobilière, concession, on a parlé des autoroutes, mais aussi l'eau, tout ce qui est régulé, voilà, tout c'est tout.
Des secteurs quand même
exposition.
Qui ont particulièrement baissé. Secteurs qui ont le plus baissé, vous dites là-dessus, même s'ils ont déjà beaucoup baissé, on attend avant d'y revenir.
Bah, je dis c'est un pari. Donc après, okay. Ça dépend de votre conviction politique, mais ça sort un peu du cadre qu'on peut avoir ici. Et donc, effectivement, après, c'est un pari. C'est peut-être que c'est une bonne idée, mais en termes de rendement risque, je pense qu'il est important, c'est de gérer le rendement risque. Donc, nous, on va essayer de se concentrer sur les sociétés quand on regarde les sociétés qui ont moins de 15% d'exposition à la France, qui n'ont pas trop de salariés en France, qui ne sont pas dans les secteurs financiers, immobiliers, régulés, etc. Et là, bah, quand on regarde le SBF 120, finalement, il y a pas mal de valeurs qui ont baissé de plus de 7% depuis l'annonce des législatives. Alors, je vais les citer. Alors, je précise, c'est pas une recommandation d'investissement sur chaque valeur, puisque chacune de ces valeurs peut avoir des dynamiques propres. Il n'y a pas que le cas français qui les impacte. Mais quand on regarde simplement une liste, finalement, brute, on voit que Rexel, Alstom, Vallourec, Arkema, Seb, Forvia, Ubisoft, STM, Soitec ou encore Ipsos, même Eurofins, même si là, il y avait un sujet de rapport de vendeur à découvert, toutes ces sociétés-là, finalement, elles ont baissé de plus de 7%. Alors qu'en termes de critères bruts, effectivement, eh bien, elles ont une exposition au risque France qui est assez faible. Donc ensuite, il faut rentrer dans le détail de chaque cas pour voir s'il n'y a pas d'autres facteurs qui effectivement jouent pour les acheter ou ne pas les acheter. Mais c'est le vivier dans lequel on peut trouver des idées aujourd'hui asymétriques qui, à moyen terme, voilà, devraient rebondir, sauf dans un cas de figure peut-être un peu extrême, mais dans l'ensemble devraient rebondir.
On peut rappeler ces valeurs parce que vous les avez citées, peut-être rapidement pour ceux qui nous suivent, nous regardent, peut-être ont besoin de noter les choses, allez-y.
Je précise encore une fois, il faut pas toutes les acheter, c'est pas des conseils d'investissement, mais c'est vraiment le vivier où on peut puiser, donc Rexel, Alstom, Vallourec, Arkema, Seb, Forvia, Ubisoft, STM, Soitec, Ipsos, Eurofins, c'est un peu particulier, donc ça c'est vraiment quand on fait un screening d'exposition de ces sociétés au risque France. Alors sur les sociétés effectivement du panier le plus risqué, bon voilà, je pense qu'après il faut en tout cas à minima attendre au moins les résultats du premier tour, des consignes de vote, des projections un peu plus claires. Alors si on devait faire un très gros pari pour les gens les plus agressifs, c'est peut-être la promotion immobilière, parce qu'effectivement on voit quand même qu'un certain nombre de programmes aujourd'hui se rendre compte que le logement est une vraie problématique pour les Français et qu'il y aura quand même, dans la plupart des programmes, il y a une volonté de relance de ce facteur immobilier. Et donc, c'est vrai que si les taux ne se tendent pas trop après les élections, pour les gens qui vraiment veulent prendre des gros paris, c'est peut-être là où il y a le plus de potentiel, mais c'est à risque.
Certains programmes proposent de limiter un petit peu les contraintes en matière de rénovation énergétique.
Bon, voilà, ça, rénovation, ça sera moins rénovation bon pour énergétique, plus les histoires de zones artificielles nettes, etc. Oui. On sait que moi, j'ai déjà discuté avec des promoteurs. Pour eux, c'est quand même un sujet pour faire baisser le coût du foncier. Donc, c'est vrai que voilà, ça peut être des paris dans certains cas qui peuvent être payants, mais avec beaucoup de risques.
15h50, il nous appelle. priorité au direct et à la séance de l'intérieur. C'est Étienne qui nous appelle depuis la Tour Euronext. Étienne, depuis la salle de contrôle du CAC, comment se porte cet après-midi notre marché parisien ?
Du rouge, avec un petit peu un copier-coller de la séance d'hier. Ouverture ce matin dans le vert, et puis à partir de 10h, ça glisse, et puis à partir de 15h, ça se reprend un petit peu avec les Américains qui se réveillent. Moins 0,46% à l'instant pour le CAC 40, qui est sous les 7600 points, 7573 points. Notez les volumes d'échanges qui sont toujours absents. Le marché est vraiment en mode wait and see, hein. Pas de grandes initiatives. On attend de voir ce que ça va donner ce week-end avec les législatives. Les premières entreprises qui communiquent ne communiquent pas dans le bon sens. Et puis surtout, ça sera confirmé ce soir à 17h30, mais si le CAC 40 clôture dans le rouge, ça sera sa troisième séance consécutive en territoire négatif, ce qui n'est pas arrivé, mine de rien, depuis un peu plus de 15 jours.
Effectivement, alors sur le mois de juin, notre CAC 40, là, à ce stade, perd un peu plus de 5%. Et si demain soir, ce sera la dernière séance du mois, si demain soir, on terminait sur cette performance mensuelle à plus de 5% de repli, ce mois de juin constituerait le pire mois pour le CAC 40 depuis septembre 2022. Voilà, compliqué, hein, ce qui n'est pas le cas sur les autres marchés européens. Il y a une vraie pression du marché liée à ces législatives françaises.
Oui. Bon, en même temps, si vous êtes gérant dans l'Ohio d'un fonds de pension, on peut comprendre que c'est un peu loin pour vous, vous préférez éliminer le risque et vous verrez bien après.
Oui, donc vous dites qu'ils ont raison.
Non, je dis que dans leur position, ça se comprend. C'est petit la France, malheureusement, pour eux, au niveau mondial, dans les actifs. Donc je comprends qu'ils puissent avoir ce type de réaction.
Bon, Olivier Droyat nous accompagne pour Montpensier Finance cet après-midi. On arrive donc sur la fin du trimestre et vont arriver aussi, avec le mois de juillet, les publications d'entreprises. On va rentrer dans une nouvelle saison là. Est-ce que ces publications pourraient apporter, alors on va parler au-delà du CAC 40, hein, des marchés en général, parce que tous les marchés mondiaux ne s'intéressent pas qu'aux législatives françaises. Est-ce que ces publications pourraient apporter un moteur supplémentaire sur les indices ?
Bon, écoutez, on verra. Ce qu'on peut dire pour l'instant, c'est que dans l'absolu, on attend une amélioration par rapport au premier trimestre. Mais bon, l'absolu, ça ne veut pas forcément dire grand-chose. C'est quand même intégré dans les prévisions des entreprises. Il y a des effets de base qui commencent à être un peu plus faciles par rapport à l'année dernière, qui seront encore plus faciles au deuxième semestre. Il y a des éléments de fin de déstockage dans pas mal de secteurs qui arrivent là sur le deuxième trimestre. C'est un peu les derniers secteurs qui arrivent au bout de cette logique. Donc ça devrait être meilleur dans l'absolu, mais là encore, ça ne dit pas grand-chose de la réaction. Si on prend un peu les contacts qu'on peut avoir avec les entreprises, les prévisions d'analystes, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des secteurs où peu de prudence quand même. Le luxe, il y a eu pas mal de révisions en baisse d'attentes des analystes. Dans l'automobile, on voit quand même des choses un peu mitigées aussi. Il y a déjà eu des avertissements sur les résultats. On sent le marché américain qui ralentit. En plus positif, je dirais, on noterait les brasseurs, sur lesquels on a des échos relativement positifs, je dirais, à la fois en volume. C'est quand même, au niveau des boissons alcooliques, c'est quand même ce qu'il y a de moins cher. Et puis également sur les coûts, c'est plutôt pas mal. Donc là, on a plutôt des bonnes choses. Dans la chimie aussi, où on est vraiment sur la fin du déstockage, c'est le dernier trimestre. Donc on devrait voir quand même des améliorations, notamment en termes de volume, ce qui est sans doute le plus important pour le cycle. Des choses un peu contrastées, secteur par secteur, mais quelques tendances qui se dégagent.
Effectivement. Et alors, vous citiez le luxe. Il se trouve qu'aujourd'hui, Bank of America relève son opinion sur Kering. Alors, c'est pas génial, hein. On est à neutre. On passe de sous-performance à neutre sur Kering. Pas un enthousiasme fou, mais enfin, les marchés quand même réagissent fortement. Le titre Kering gagne 4% cet après-midi.
Alors, il faut voir, c'est quand même la société du luxe qui a le plus déçu depuis de 18 mois. Gucci, c'est quand même assez mode, hein. C'est pas le luxe intemporel comme Hermès, c'est plus volatile. Donc il y a eu une énorme hausse, beaucoup d'attentes, beaucoup d'achats, puis ça s'est dégonflé. On peut comprendre, un cours divisé par deux, des marges qui ont baissé de 15 points depuis le pic, un nouveau directeur artistique avec peut-être des échos qui ont l'air pour l'instant convenables. Ça peut être un pari, mais c'est vraiment... Aujourd'hui, c'est la société en redressement du secteur. C'est le pari de redressement dans le secteur.
Et puis à l'inverse, EuroAPI qui recule de 3,5% cet après-midi. EuroAPI, nouvelle déconvenue, parce que le groupe abaisse ses objectifs pour la deuxième partie de l'année. Voilà. Nouvel abaissement, énième abaissement.
C'est un peu calamiteux. En général, les spin-offs, c'est-à-dire les séparations d'entreprises, des petites filiales de grandes entreprises, c'est souvent des très bonnes pistes d'investissement, hein, pour les gens qui nous écoutent. C'est souvent parce que c'est des sociétés qui sont bien managées, avec des gens qui veulent prouver. Mais là, quand même, c'est un gros échec. Le problème, c'est qu'il y avait un rationnel de rapprochement des marges par rapport à l'industrie, sauf qu'ils ne sont pas sur les bonnes technologies, parce qu'ils sont sur toutes les technologies de synthèse chimique de Sanofi d'il y a 15 ans. Et aujourd'hui, ce qui marche dans le secteur de la santé, nous, on a un fonds en secteur, on connaît bien, c'est qu'effectivement, il y a cette dynamique de croissance des médicaments biologiques. Ils ne sont pas positionnés dessus. Donc, pour changer le mix de technologies d'un groupe comme ça, ce n'est pas facile.
Merci beaucoup, Olivier Droyer. Et son franc-parler, c'est la Bourse Cash, chaque jour à 15h40. Vous êtes gérant action pour Montpensier Finance. Et si vous avez trouvé Olivier plutôt bon, plutôt convaincant, N'hésitez pas à le faire savoir à vos amis, vos collègues. Le replay sera dans un instant disponible et consultable sur notre application BFM Business. Merci beaucoup Olivier d'être passé nous voir. Dans un peu moins d'une heure, le bullshitomètre, à 3 jours des législatives, Emmanuel Lechypre viendra mettre les pieds dans le plat. Il a regardé les principaux programmes et il va nous dire si un pays peut à la fois être social et bien géré. Être social et bien géré les finances publiques est-il possible? La réponse d'Emmanuel Lechypre, ce sera donc dans le bullshitomètre à partir de 16h40 tout à l'heure.
BFM Bourse, Culture Bourse.
Parce qu'investir en bourse, ça se cultive. Culture Bourse, vos questions sur vos investissements trouvent chaque jour ici leurs réponses. Julie Cohen-Horton et ses experts. Bonjour Julie.
Et pour ce faire, bonjour à tous. Direction BFM Bourse et notre adresse bfmbourse@bfmbusiness.fr. Ou bien vous pouvez aussi nous écrire si vous avez des questions au QR code et nous envoyer tout cela au QR code qui s'affiche sur votre écran.
Alors Julie, les marchés n'ont aucune pitié évidemment. On voit que le CAC 40 souffre depuis maintenant plusieurs séances. Mais on peut parfois dans le marché trouver des fleurs, de la sueur. Oui, bien sûr, mais aussi parfois des caresses et des raisons d'espérer. C'est pour ça qu'on vous apporte un certain nombre d'idées de valeur dans lesquelles investir et qu'on répond chaque jour à vos questions. On a cette question aujourd'hui d'un auditeur consacré cette question à une valeur, elle, en net repli. Et oui, là, on est dans la sueur pour le coup. Une valeur en baisse de 17% depuis le 1er janvier.
Cette valeur, c'est Inter Parfum et cette baisse, forcément, eh bien, elle ne laisse pas insensible Michel. C'est Michel qui nous a écrit. Il se demande, eh bien, s'il faut renforcer ou au contraire alléger avant l'attribution d'actions gratuites. Eh bien, celui qui va nous mettre au parfum, justement, c'est Gwenaël Lessard pour Swiss Life Banque Privée. Bonjour Gwenaël, merci d'être avec nous.
Bonjour Julie.
Gwenaël, qu'est-ce qui se passe concrètement avec Inter Parfum?
Non, mais alors 2024 pour Inter Parfum, c'est l'année de transition. Donc on sait qu'il y aura pas de, ils vont faire leur chiffre d'affaires comme prévu autour de 900 millions. Il y aura pas de surprise positive comme d'habitude a priori. Donc le marché est un petit peu déçu par ça. Et puis il faut pas oublier qu'ils ont sorti un résultat du T1 qui était juste conforme aux attentes, mais surtout en retrait pour certaines grandes licences comme Jimmy Choo et Montblanc. Mais faut pas oublier qu'en T1 2023, Jimmy Choo a fait plus 71%. Donc on partait avec des bases de comparaison très très difficiles. Donc alors le point positif, c'est qu'ils vont sortir, ils ont acheté la licence Lacoste, comme vous savez, donc ils ont sorti en juin leur premier parfum Lacoste masculin. Et je pense que Lacoste, sur les 2, 3, 4, 5 prochaines années, c'est un relais de croissance, mais très très puissant pour Inter Parfum. Donc ok, ça souffre cette année, mais franchement, c'est sans doute à acheter si on veut jouer les 3-4 prochaines années de vente.
Donc voilà, vous êtes à l'achat concrètement compte tenu de ces perspectives?
Tout à fait.
Merci beaucoup Gwenaël Lessard pour Swiss Life Banque Privée.
Et qu'on retrouvera d'ailleurs, si vous le voulez bien Gwenaël, dans un instant pour parcourir l'ensemble de cette séance, les valeurs qui marquent de cette séance à la hausse. Kering, plus forte hausse aujourd'hui du CAC 40, à la baisse Edenred, aujourd'hui moins 3%. On voit d'ailleurs un petit retour de l'inquiétude des marchés liés aux législatives. Edenred, lanterne rouge aujourd'hui. Bon, ça faisait partie des valeurs qui avaient le plus souffert aussi depuis l'annonce de la dissolution. On en reparlera dans un instant. On voit un léger accès de volatilité aussi sur notre marché français. Les indices de volatilité se tendent. C'est Romain Daubry qui nous expliquera en détail à partir de 16h30 tout à l'heure. Il nous dira qu'effectivement aujourd'hui le VIX consacré au CAC 40, l'indice de volatilité du CAC 40 monte à 24 alors qu'il était hier à 21. Celui sur l'Eurostoxx lui est stable à 17. Donc on a vraiment un stress spécifique sur la France, même si on n'a pas d'incendie, on ne va pas non plus surjouer les choses. L'écart de taux avec l'Allemagne lui est à peu près de 74 points de base. Ça se tend un tout petit peu également. On en reparle après la pause. A tout de suite.
BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business.